Mon beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers nous, vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple et, quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. »
Merci Linda. Je crois que ça fait un petit moment que nous sommes assis. Donc si vous avez besoin, bougez un petit peu et pourquoi pas à saluer vos voisins qui vous n'avez pas encore salués. dans mon travail avec les groupes bibliques universitaires, je rencontre souvent des étudiants athées ou agnostiques qui se posent la question de la souffrance. Dieu est-il indifférent à la souffrance pour qu'il y ait tant de souffrance dans le monde? Ou est-il impuissant face à elle? Peut-être en tant que chrétien, vous posez-vous la même question. Ou peut-être si vous n'êtes pas chrétien, cette question vous semble une sérieuse objection à l'existence de Dieu. Je ne crois pas que notre texte de ce matin nous apporte une réponse béante à la question de la souffrance, de la question de l'impuissance ou l'indifférence de Dieu, mais ça nous aide à comprendre le contexte où se trouvent les Hébreux. Dieu a promis que le peuple hébreu serait un peuple nombreux, vivant sous la bénédiction de Dieu dans une terre promise. Et à la fin du chapitre 2, nous trouvons bien un peuple nombreux, mais aucune bénédiction, et ils sont loin de la terre promise. Reprenez vos Bibles. Nous sommes à la page 40. Et s'il vous plaît, regardez le verset 23 du chapitre 2 avec moi, la page 40. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Dieu est-il indifférent à la souffrance de son peuple en esclavage? Le verset continue. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Dieu n'est pas indifférent, mais est-il impuissant, impuissant à accomplir ses promesses envers son peuple? Est-ce qu'il est impuissant contre le pharaon? Alors, comme les scènes d'un film qui passe brusquement des otages dans une banque au chef de police assis tranquille dans son bureau, l'auteur d'Exode passe des esclaves exploités en Égypte à Moïse, gardant tranquillement ses brebis. Mais nous verrons que ce n'est pas vraiment Moïse qui est notre héros. Mais avant de poursuivre, je vais prier Dieu de nous aider à l'écoute dans sa parole. Prions. Père Céleste, nous te prions de nous parler au travers de ta parole et de nous aider à écouter. Je te demande aussi que mon français et mon accent anglais n'empêchent personne d'entendre ce que tu as à dire. Nous prions ça pour ta gloire. Amen. Alors, Moïse n'est pas le héros, mais le héros, c'est Dieu. Regardons les versets 1 à 12 avec notre premier titre, « Dieu est celui qui sauve ». Imaginons la scène. Alors, Moïse est devenu berger. Il est dans la campagne, entouré par son troupeau. Il se souvient, même si les souvenirs sont maintenant assez flous, de ces jours où il vivait dans le palais du pharaon. Puis, il se souvient du jour où il a essayé de commencer sa révolution. En tuant un Égyptien, il frémit. Il frémit encore quand il se souvient de sa fuite hors d'Égypte, craignant la colère du Pharaon est rejetée par ses frères égyptiens. Non, songe Moïse, la vie tranquille me convient maintenant, avec ma femme, mon fils, mes brebis, ma rélodeur. Mais tout d'un coup, il voit un buisson qui brûle, mais qui ne consume pas. Alors, le verset 3, Moïse fait un détour pour voir ce qui se passe. Et Dieu parle. Après des siècles de silence, Dieu appelle Moïse. Dieu lui dit au verset 6 qu'il est le même Dieu qui a fait autrefois ses promesses à Abraham, à Isaac et Jacob. Et Dieu dit, le verset 7, qu'il a vu la souffrance de son peuple. Dieu dit qu'il a entendu les cris de son peuple. Dieu dit qu'il connaît les douleurs de son peuple. Dieu n'est pas indifférent. Êtes-vous au milieu de la souffrance? Sachez que Dieu voit votre souffrance. Il entend vos cris. Il connaît votre douleur. Ce fait ne constitue pas une réponse à la souffrance. Et je suis bien conscient que je suis jeune et j'ai très peu souffert. Mais vous n'êtes pas seul. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Mais Dieu est celui qui sauve. Regardons le verset 8. Je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusqu'à dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Dieu est celui qui sauve. Il va utiliser Moïse pour son œuvre de salut. Le verset 10. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et je crois que la réponse de Moïse est bonne. Il reprend le verset 11. Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Moïse est un meurtrier. Il est un berger. Il a déjà tenté une révolution et c'était un échec. Et selon le livre des Actes, il a alors 80 ans. Il ne peut pas lutter contre le pharaon d'Égypte. Il ne peut pas faire sortir ce peuple si nombreux. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Dieu va délivrer le peuple hébreu de la domination. Dieu va monter le peuple dans la terre promise. Dieu choisit et il envoie Moïse pour sauver son peuple. Comprenez-vous que Dieu est celui qui sauve? Nous avons vu dans les semaines précédentes comment Moïse est une préfiguration de Jésus. Ça veut dire une image qui nous aide à comprendre ce que Jésus a fait et qui il est. Et alors, ici, le peuple de Dieu se trouve en esclavage. Et Dieu sauve son peuple en envoyant son sauveur Moïse, qui va faire sortir le peuple à la terre promise. La Bible dit que nous sommes tous des esclaves, que nous sommes sous l'esclavage du péché. Nous sommes tous rebelles contre Dieu. Et donc nous devons faire face au juste jugement de Dieu. nous n'avons aucun droit de faire partir, du peuple de Dieu. Nous n'avons aucun espoir d'aller au paradis, la terre promise avec Dieu. Mais en Jésus, Dieu a envoyé son Sauveur. Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer du péché et du jugement de Dieu contre notre rébellion. Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions faire partie du peuple de Dieu. Jésus est mort pour que nous puissions aller au paradis. Et en ressuscitant, Jésus est allé devant nous, avant nous. Mais lorsque Moïse est une préfiguration de Jésus, il faut dire qu'il y a aussi une grande différence. Est-ce que vous avez remarqué les mots du verset 8 ? Dieu dit « Je suis descendu pour délivrer ». Et oui, en Exode, Dieu est descendu, mais toujours restant à distance de l'homme. Moïse ne devait pas approcher du buisson. Et plus tard, Dieu interdit aux Israélites de s'approcher de la montagne où il parlait avec Moïse. Mais en Jésus, Dieu est venu en chair. Il est venu proche de nous. Dans le Nouveau Testament, en Jean 8, le verset 58, Jésus reprend le nom « Je suis » sur lequel Dieu se présente à Moïse. Jésus a dit aux Juifs qui s'opposaient à l'autorité de Jésus, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et les Juifs ont bien compris ce que Jésus disait. Selon Jean, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. La seule réaction possible devant quelqu'un qui se dit Dieu. Et plus tard, dans une lettre, Jean dit en parlant du Dieu, le Créateur, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Dieu est venu en Jésus. Il a expérimenté la haine, le mépris, l'exclusion. Il a expérimenté la pire de souffrances en mourant sur la croix. Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire que Dieu comprend notre souffrance, que Jésus compatit pleinement. On cherche souvent des sauveurs, n'est-ce pas? Souvenez-vous de l'espérance l'an dernier, quand soulevaient les élections américaines. Il y avait tellement d'espérance en Obama, aux États-Unis et dans le monde entier. Mais 13 mois plus tard, on s'est aperçu qu'il n'est qu'un homme. Sans doute, Obama fait son mieux, mais face à la difficulté, il n'a pas pu fermer Guantanamo comme il souhaitait. Il n'a pas pu ramener tous les soldats d'Irak et d'Afghanistan. Il reste un homme avec ses limites. Mais Dieu, lui, est celui qui sauve. Il sauve dans l'Exode en se servant de Moïse. Il peut nous sauver, étant venu sur terre en Jésus. Avec les GBU, souvent je distribue des flyers devant les Pâques parisiennes, Et quand je les entends dire « Non merci, ça va », je me triste. Parce que selon la Bible, ça ne va pas sans Jésus. Comme les Hébreux, en esclavage, nous avons besoin d'un sauveur. Et Dieu a pourvu en Jésus. Peut-être vous êtes là ce matin et vous ne voyez pas votre besoin d'être sauvé. Dans ce cas, je vous encourage à continuer à venir les dimanches matins. Et pourquoi pas, à la fin du culte, demander à quelqu'un pourquoi les chrétiens croient avoir besoin d'être sauvés. Où avez-vous reconnu votre besoin d'un sauveur et le salut que Dieu a pourvu en Jésus? Alors, réjouissons-nous que Dieu soit que celui qui sauve, celui qui a donné son Fils, celui qui nous pardonne, celui qui a payé le prix, celui qui nous appelle de le suivre aujourd'hui. Réjouissons-nous qui nous promet le paradis à venir. Donc Dieu est celui qui sauve. Notre deuxième titre, Dieu est celui qui est. Regardons les versets 13 à 15. La réponse de Moïse du verset 13 me semble très positive. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais pourquoi cette question? Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur reprendrai-je? Peut-être Moïse pense à nouveau à l'esclave hébreu qui lui a dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Peut-être que Moïse ne connaît pas bien Dieu après avoir grandi dans une culture égyptienne. Ou peut-être les Hébreux ne connaissaient pas bien Dieu après ces siècles passés en Égypte. Mais Dieu répond clairement, encore que sa réponse soit peut-être difficile à comprendre. Le verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors, comment comprendre ce nom? Peut-être ce nom est plus facile à dire dans la langue française que le prénom Keith, mais pas forcément plus facile à comprendre. Ça indique plus le sens du nom que le mot François, qui veut dire homme libre, ou que le mot Keith, qui veut dire le guerrier qui descend, ou la forêt, mais moi je préfère le guerrier. Mais ce nom, je suis celui qui suis, peut aussi être traduit je serai celui qui serai. Et la version courte devient Yahvé, qui est traduit, qui est souvent remplacé par l'expression l'Éternel dans les traductions françaises de la Bible. Et pour nous aider à comprendre ce nom, pensez à la différence entre une lettre de recommandation et un CV. Dans le CV, vous énumérez vos diplômes, vous relatez votre expérience, peut-être un peu gonflé. Mais la lettre de recommandation parle de votre comportement, parle de vos rapports avec vos collègues, comment vous avez vécu vos responsabilités. Et je crois que ce nom, « Je suis celui qui suis », indique que Dieu écrit sa propre lettre de recommandation. Et en plus, il n'oriente pas seulement vers le passé, mais en fait vers le présent et même l'avenir. Dieu est. Il est toujours. Il était. Dieu sera. Personne ne peut le changer. Personne ne peut le défier. Personne ne peut le limiter. Dieu existe et il fait ce qu'il veut faire. Ça veut dire aussi que Dieu se révèle en l'histoire, au travers de ses actes. Il se révèle par sa fidélité aux promesses qu'il a faites. Il se révèle en sauvant un peuple de l'esclavage. Dieu se révèle en jugeant le pharaon d'Égypte. Et des siècles plus tard, Dieu se révèle en Jésus sur terre et à la croix. Nous voyons Dieu qui veut sauver, Dieu qui donne, Dieu qui est généreux, Dieu qui est juste et qui nous aime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous devons connaître Dieu tel qu'il est. Et comment connaître Dieu tel qu'il est? En regardant ce qu'il a fait tout au long de l'histoire biblique. Alors, cherchons la Bible pour connaître Dieu tel qu'il est. Cherchons la suite de l'Exode pour connaître Dieu tel qu'il est. Et regardons Jésus qui a dit, qui s'est dit, « Je suis » pour connaître Dieu tel qu'il est. C'est pourquoi si vous n'êtes pas chrétien, c'est super de commencer en lisant la Bible avec les évangiles qui racontent la vie de Jésus. Mais aussi, je me demande, est-ce qu'il y a des histoires de Dieu que vous n'aimez pas? Dans la suite d'Exode, nous allons voir un Dieu qui endurcit le cœur du pharaon. Nous allons voir un Dieu qui tue les premiers-nés d'Égypte. Nous allons voir un Dieu qui punit la rébellion de son peuple. Je crois que ce sera un faux espoir de dire « Je veux que Dieu soit comme ça » et ce sera orgueilleux de dire « Je ne veux pas que Dieu soit comme ça. » Nous pouvons seulement connaître Dieu tel qu'il est. Donc, humilions-nous devant lui. Nous pouvons être honnêtes avec Dieu. Dieu, je ne comprends pas ça. Dieu, je ne comprends pas ceci. Mais ne nous faisons pas un Dieu tel que nous voudrions, mais acceptons et connaissons ce Dieu tel qu'il est, le Dieu qui dit « Je suis celui qui suis ». Alors, pour finir, notre troisième titre, « Dieu est celui qui promet ». Regardons les versets 16 à 22. Après avoir donné son nom à Moïse, Dieu détaille la suite pour Moïse, comme un bon manager qui délègue son travail. Dieu fait des promesses pour la suite. Il communique à Moïse ce que celui-ci doit dire aux Israélites en lui donnant l'assurance qu'ils vont écouter cette fois. Et Dieu reprend les promesses d'une terre promise. Regardez le verset 17. J'ai dit, vous ferez monter de l'Égypte, et vous souffrez dans le pays de Cananiens, des Hittites, des Amoriens, des Phériziens, des Éviens et des Jébusiens. Je vous fais marquer que le Jébus est quelque chose de biblique. Il y a des Jébusiens dans la Bible, mais je m'égare. Dieu promit la terre aux Israélites. Aussi, Dieu fait savoir à Moïse ce qu'il doit dire au pharaon en avertissant que, au verset 19, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. » Et Dieu dit au verset 22 que les Hébreux partiront avec les bijoux, les vêtements, les objets précieux des Égyptiens. Et quelle promesse! Quelle promesse! Mais ces promesses ne semblent-elles pas impossibles à tenir? Les Hébreux vont-ils vraiment écouter un berger de 80 ans? Le pharaon va-t-il vraiment laisser son équipe d'excavateurs humains partir? Les Égyptiens vont-ils vraiment donner leurs bijoux, leurs trésors à ce peuple d'esclaves, après avoir été frappé par les plaies terribles? Et la terre promise appartient déjà à ces six nations. Mais Dieu tient ses promesses parce qu'il est celui qui est. Il sera celui qui sera. Il peut faire des promesses pour l'avenir. Peu importe l'apparente impossibilité de ses promesses. Notre chapitre commence avec un Dieu qui sauve et le Sauveur qui l'envoie. Et ce même chapitre s'achève avec les promesses expliquant comment Dieu va sauver les Israélites par Moïse. Pour réfléchir, comment appliquer ces versets? Comment est-ce que les Israélites auraient dû réagir à ces promesses? Nous verrons comment ils réagissent dans les semaines qui arrivent. Mais ils auraient dû croire les promesses de Dieu et suivre Moïse, n'est-ce pas? Et nous avons dit comment Moïse est une préfiguration de Jésus, qui est le grand sauveur. Alors, croyons les promesses que Dieu a faites à ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Croyons que Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Il ne reste aucune culpabilité. Il ne reste rien à ajouter. Croyons que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, sans crainte, même après une semaine qui peut être terrible. Et croyons que Dieu nous a préparé une place dans le paradis à venir où il n'y aura aucune souffrance. Il faut faire attention parce que Dieu n'a pas promis tout et n'importe quoi. Je ne crois pas qu'il ait promis la santé ou la réussite professionnelle. Il n'a pas promis que la souffrance ne touche pas son peuple. Donc vérifions bien. Vérifions d'être bien clair sur ce que Dieu a promis et sur ce qu'il n'a pas promis. Mais voilà, Dieu est celui qui promet. Croyons ses promesses de salut accomplies en Jésus. Pour conclure, Dieu est-il indifférent face à la souffrance? Non. Dieu est-il impuissant, est-il impuissant face à la souffrance? Non. Cela ne veut pas dire que la souffrance disparaît, mais Dieu compatit. Il a promis qu'un jour, il abolira toute souffrance. Dieu est celui qui sauve, et à nous de reconnaître notre besoin et d'accepter son sauveur. Dieu est celui qui est, connaissons-le, tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé. Et Dieu est celui qui promet, croyant ses promesses de salut accompli en Jésus. Prions. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et prier en silence. Pour nous sauver. Et nous te louons parce que tu es fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus. Amen.